Il a aussi écrit l'évangile de Luc, bien sûr. Et ce qui est génial avec Luc, c'est que sa formation scientifique fait qu'on a beaucoup de détails et que les contextes, etc., tout est bien décrit. Et c'est pour ça que c'est un tel régal d'avoir cet homme-là qui a écrit le livre des Actes, le début de l'Église, parce que ça nous donne vraiment un super modèle pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre dans notre vie d'Église ? Amen. Alors, prions ensemble, les amis. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. C'est tellement... Que ferions-nous sans ta parole, Seigneur Jésus, chaque jour ? Merci parce que tu nous l'as donnée. Merci d'avoir inspiré tous ceux qui l'ont écrit, Seigneur. Merci pour ces 66 livres qui, chacun, sont tellement une lampe à nos pieds dans tout ce par quoi nous pouvons passer, Seigneur, mais sont aussi ce manuel, ce guide, cette vision de ce que tu veux pour ton peuple, pour ton Église, pour ton épouse. Sois béni, Jésus. Sois béni, Père. Sois béni, Saint-Esprit. Amen. Donc, on va lire. En fait, pourquoi je voulais vous apporter ce message ? Très simplement, ce matin, on a eu, avec quelques responsables de l'Église, on a eu un temps avec Simon la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, Simon Holly, donc qui est un petit peu le papa de notre Église, j'ai envie de dire, c'est notre ami, mais c'est un peu comme un papa aussi pour nous, un référent apostolique sous l'autorité de laquelle on se place volontairement en tant que leader ici. Et voilà, l'après-midi, on a pu avoir un temps pour échanger sur qu'est-ce que c'est l'Église. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... ça peut paraître pour une évidence, mais malheureusement, quand les choses deviennent des évidences, parfois, c'est là qu'elles perdent leur sens. Et c'est pour ça que c'est toujours important de revenir au sens qu'il y a derrière les mots. Donc, lisons Actes 2, à partir du... C'est de 36 à 47. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ. Donc bien sûr, excusez-moi, je ne vous ai pas donné le contexte. En fait, là, c'est Pierre qui fait ce serment magistral à Jérusalem le jour de la Pentecôte. On approche de la Pentecôte, c'est le dernier week-end du mois. Et donc Pierre, rempli de l'esprit, prononce ce discours et finit avec ces mots. Merci beaucoup, Hélo. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Car ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun, et il faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh ! Le waouh n'est pas écrit à la fin du passage, mais c'est toujours tellement enthousiasmant de voir. Je ne sais pas si vous sentez comme moi l'élan qu'il y a dans ce passage. Il y a comme un élan, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Et d'ailleurs, rien ne l'a arrêté. Parce que de ce jour-là, l'Évangile a conquis le monde entier. Et il y a quelques tribus, peut-être encore perdues aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais elles sont rares, et merci Seigneur. Et du coup, le premier titre de mon message était « Qu'est-ce que l'Église ?» Et puis en fait, ça a changé, c'est devenu une Église de disciples. Voilà, on répète un peu toujours les mêmes choses, hein, mais les amis, en fait, la Bible ne fait que répéter les mêmes choses, donc c'est normal en fait. Et du coup, si vous regardez le mot « Église », si on est concret, c'est un mot, c'est très intéressant, c'est un mot grec, ecclesia, avec deux K. qui n'a pas été traduit ensuite en latin. C'est pour ça que dans nos Bibles, on a le même mot tiré du grec directement, ecclésia. Et qu'est-ce que veut dire ce mot ? C'est un mot en fait tout simple qui n'est pas du tout un mot spirituel. C'est un mot qui veut dire assemblée. Et en fait, si vous parlez grec, il y en a quelques-uns parmi nous peut-être qui parlent grec. Alors peut-être qu'ils vont me contredire et là j'aurai la honte, mais c'est pas grave. Mais peut-être il y a un grec ancien, un grec plus nouveau, je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est le mot grec, le mot assemblée. Et on peut l'utiliser, par exemple, si vous êtes dans un rassemblement qui n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel, ça sera ce même mot assemblée. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai étudié. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir que l'Église, encore une fois, c'est tout simplement les gens qui s'assemblent autour de Jésus. Amen. Et du coup, quand Simon, dimanche après-midi, essayait de nous aborder ce sujet, ils avaient à l'église, tu peux mettre la deuxième diapo, ils avaient établi une réflexion, voilà, où il y avait 12 points, et puis en continuant la réflexion, ils ont diminué un peu. Bon, désolé pour ceux qui ne voient pas complètement, mais je vais vous dire, c'est facile. Donc voilà quelques ingrédients dans le passage qu'on vient de lire qui peuvent nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est que cette assemblée de gens qui se réunissent. Et du coup, premièrement, donc vous voyez, si vous regardez ce cercle, en fait, on peut le diviser en trois lignes, d'accord ? La ligne du haut, la ligne du milieu et la ligne du bas. Et vous savez, vous êtes habitués maintenant, notre vision d'église, les trois A. Qui c'est qui peut me répéter la vision de l'église ? Quel est le premier A ? Adorer Dieu, merci. Ouf. Ça, c'est la base de tout. Ensuite, le deuxième A, qu'est-ce que c'est ? Merci Joël, génial. Apprendre à vivre comme Jésus. Et le troisième A de notre vision, c'est ? Aimer et servir notre ville. Merci Matt. Et du coup, ces trois A, en fait, A1, A2, A3, c'est comme ces trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension verticale. Là, c'est vraiment la connexion. C'est pour ça qu'on a appelé cette église Connect, notamment la connexion avec Dieu individuellement, mais aussi en tant qu'église, on a une connexion. C'est pour ça qu'on passe ces temps de louange et d'adoration et que c'est tellement primordial. Le deuxième A, c'est cette dimension intérieure, apprendre à vivre comme Jésus, bon, bien sûr par le Saint-Esprit. Aussi au travers de ministères, de leaders ouins, et je reviendrai sur ces choses-là maintenant, et avec au centre, c'est une assemblée, donc c'est ce côté communauté, ce côté partage, ce côté repas ensemble, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans notre église, mais je pense dans beaucoup d'autres églises aussi, c'est pour ça que c'est si central. Et enfin, le troisième A, la dimension extérieure, la dimension du témoignage. Et ces trois dimensions, elles ressortent tout le temps dans la Bible, tout le temps. Et du coup, donc de déclaration de l'évangile et de multiplication de disciples. Il commence par 3000 dans ce passage-là. Les 3000 deviennent en quelques jours 5000. Et puis après, ils ont conquis le monde comme ça, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect multiplication. Donc premièrement, une église, c'est un lieu où on reconnaît Jésus comme sauveur et Seigneur. D'abord sauveur, donc vous allez me dire, mais Mathieu, mais merci, je sais ça, j'étais chrétien depuis longtemps, mais peut-être que des gens ici n'ont pas été chrétiens depuis longtemps, et du coup c'est important de rappeler, mais je crois qu'on a toujours, nous aussi, qui sommes chrétiens depuis longtemps, besoin de revenir là-dessus. Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et je pense que ça peut être une tentation, pour chacun de nous chrétiens de nous glorifier par nos œuvres. En fait, c'est humain. C'est humain de vouloir être dans cet esprit de performance. On est revenu largement là-dessus à la conférence du Père à Grenoble le week-end dernier, mais on en avait déjà parlé ici aussi en novembre par le super message d'Olivier. La performance, c'est chercher à mériter l'amour de Dieu, chercher à mériter la grâce de Dieu, chercher à mériter sa faveur. Et c'est juste une tentation tout le temps humaine. Quand on réussit bien, quand on a bien lu notre Bible, quand on a bien prié, on se dit « Ah, ben là, je suis un bon chrétien ». Alors que si on a oublié, on va avoir tendance à se flageller. C'est pareil pour tout ce qu'on fait dans notre vie tous les jours. Mais c'est important de ne pas remplacer la grâce de Dieu par notre propre efforts, nos propres œuvres. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Le jour où tu vas te retrouver devant Dieu à la fin de ta vie, Dieu ne va pas regarder à ce que toi tu as fait. Sinon, tu pourrais faire demi-tour et tu n'aurais pas accès. Personne, aucun d'entre nous. Dieu va regarder à ce que son fils Jésus a fait comme œuvre sur la croix pour toi. Amen. Et ça, c'est important que ça soit une valeur cardinale dans nos cœurs. Mais aussi Jésus comme Seigneur. Juges 21, verset 25, il y a cette phrase qu'on retrouve à très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et ça, les amis, ça, c'est une tentation tellement forte aussi. Nous, nous sommes l'héritage ici en France du siècle des Lumières. Nous sommes les héritiers de la pensée grecque. Et qu'est-ce que c'est que la pensée grecque? Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières? C'est moi au centre. Et je vous rassure, c'était là bien avant, si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'épisode de la tour de Babel au tout début de la Bible. Déjà, l'homme a voulu se faire un nom. L'homme a toujours voulu se placer au centre. Ça veut dire, quand je suis dans cet état d'esprit-là, et vous me direz, non mais moi Mathieu, je ne suis jamais dans cet état d'esprit-là, absolument jamais, ce n'est pas moi qui est au centre. Eh bien si, eh bien si, en fait c'est quelque chose auquel on vient toujours et contre lequel on doit lutter à chaque instant de nos existences parce qu'on a tellement envie d'avoir le contrôle, on a tellement envie nous de décider qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, pour dans notre maison, pour nos études, pour nos choix professionnels, pour qu'est-ce qu'on va manger ce midi. J'exagère, je grossis volontairement le trait. Combien je vais donner, attention ça pique un peu plus, combien je vais donner financièrement à mon église, combien je vais... Vous voyez les amis, toujours ce truc de « Ah moi je vais... Ah, ouais, je... » C'est comme si on oubliait que Jésus est Seigneur et qu'il n'est pas uniquement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et ça, tant que chacun de nous, on ne plie pas le genou. Et ça demande de l'humilité, c'est dur. Plier le genou et de dire « Seigneur, tu es Seigneur et je ne le suis pas. » Tu es Seigneur et je ne le suis pas. Je ne suis pas le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Et ça, ça lutte en fait contre tout ce qui fait qu'on est homme et femme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin du renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit au quotidien. Parce qu'alors que Jésus est réellement notre Seigneur, tous les aspects de nos vies peuvent être alignés à lui. Et là, on peut rentrer pleinement dans ses promesses pour nous. Amen. Moi, vous savez, j'ai toujours été, enfin pas toujours, c'est pas vrai, mais j'ai souvent été contre ce truc de dire, vous savez, l'ordre des priorités, d'abord Dieu, ensuite ma femme, ensuite mes enfants, ensuite mon église ou mon travail, peu importe l'ordre où vous mettez. J'ai jamais trop aimé ce classement-là, parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand Jésus est vraiment Seigneur de ta vie, quand tu le mets lui, en fait, il y a un seul ordre, réellement. Il y a Dieu en premier. Parce que quand lui est premier, forcément, tout le reste va prendre la bonne place dans ta vie. Tout le reste va être à la bonne place parce que lui va te conduire, lui va te guider pour faire les bons choix dans tous les choix quotidiens et concrets de ta vie. Amen. Donc ne vivons pas sous nos propres désirs. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, nous dit Galates, ceux qui sont conduits par, ou Romains, pardon, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu. Amen. Ensuite, on va aller un peu plus vite. Une église, c'est un lieu avec l'importance de la parole et de l'adoration. Bon, ben voilà, la connexion à ce livre de la Bible, mais aussi ces temps de louange et d'adoration. En fait, tout ça, c'est vraiment des moyens de se connecter concrètement à Dieu. Dans Matthieu 22, Jésus dit « Tu aimeras », il rappelle en fait le premier commandement du Décalogue, et il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est le premier commandement et le plus grand. » En fait, vraiment, l'important, c'est d'aimer Dieu. Et d'aimer Dieu, ça veut dire d'aimer le louer, l'adorer. Et ça veut dire d'aimer sa parole écrite, sa parole aussi révélée par des paroles comme on a eu par exemple ce matin, mais sa parole écrite, de baser notre vie là-dessus. Et les amis, vraiment, ça c'est pareil, c'est des choses qui... Ça, vous allez me dire, oui mais Mathieu, mais c'est évident. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident de lire sa parole tous les jours. On parle du matin, du soir. Moi, je vous conseille quand même le matin. Parce que quand vous commencez par ça le matin, ça va vraiment influencer toute votre journée. Et encore une fois, on est quelques-uns à suivre ce plan de Bible en un an. Vraiment, je vous encourage à nous rejoindre. Et si c'est pas maintenant, c'est en janvier prochain, je ne sais pas. Mais vraiment, mettez comme priorité de passer du temps dans la parole de Dieu. Ça change juste tout dans nos vies. Et dans la louange, et dans l'adoration, bien entendu aussi. Et ça, c'est tous les jours, c'est pas le dimanche. C'est à chaque instant, en fait, de nos vies. Amen. Troisièmement, je reviendrai là-dessus après. Aimer Dieu ensemble aussi. Parce que j'arrête pas de dire, c'est pas que le dimanche, mais c'est aussi dans les moments où on est tous ensemble. C'est quand même très, très important. Donc, troisièmement, si on passe à la deuxième ligne, un lieu où le Saint-Esprit se plaît à se manifester. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et oui, ça fait peur. Oui, ça peut déranger. Oui, ça dérange nos plans. Et je vous rappelle, peut-être pour certains, c'est des redites, mais pour ceux qui n'étaient pas là, au week-end de rentrée qu'on a eu au mois de septembre dernier à l'Oasis, il y a eu ce culte, comme moi, j'ai rarement expérimenté, où Dieu est venu par sa présence. Et en fait, ça a chamboulé tout le culte. Il y avait vraiment cette sensation de la lourdeur, de la gloire de Dieu au milieu de nous. Et en fait, la réunion a duré une heure de plus que prévu. Et ça a mis un peu dans l'embarras ceux qui s'occupaient des enfants. C'est pour ça que ça dérange et que ce n'est pas toujours évident. Mais il se trouve que ce jour-là, Dieu s'est manifesté dans notre rencontre de manière incroyable. Et tous les jeunes, il y avait beaucoup d'ados et de jeunes qui étaient présents, ils étaient tous en pleurs. Il y avait vraiment une unité de ce que faisait. Ça ne pouvait être que Dieu. Et plusieurs, je me rappelle, on est sortis de ce temps-là, on se regardait les uns des autres et on se disait... Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de nous ? On savait plus, c'était l'heure de manger, on savait plus ce qu'on devait faire, dire, quoi, etc. Et ça, c'est important. On n'est pas un lieu de sensationnalisme où les émotions sont au centre, c'est pas du tout ça. Mais il faut être un lieu où le Saint-Esprit se plaît à venir et le Saint-Esprit se plaît à agir. Même si ça nous dérange, ça c'est très important. Parce que pareil, c'est toujours humain, tentant de vouloir garder le contrôle. Garder le contrôle, garder le contrôle, garder le contrôle. Mais on ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas. Tant qu'on essaye de garder le contrôle, on va se priver, nous, de bénédiction. Et puis, des fois, quand ça lâche, ça peut lâcher même de... C'est comme si on a besoin de cet apprentissage de laisser Dieu ne pas être dans une boîte. Amen. Ensuite, la communauté, donc vraiment une de nos valeurs cardinales, là, c'est vrai. Dans tellement de choses qu'on vit dans cette église, il y a toujours à manger, il y a toujours à boire, il y a toujours des bons moments, et ça c'est merveilleux, cultivons-le. Mais j'avais quand même un petit mais à tout ça. Vraiment, il faut être vigilant à que des gens ne soient pas exclus. En fait, rapidement, vous savez, tout groupe humain, on va se retrouver par sensibilité, par affinité, c'est le mot un peu à la mode. Et ça, dans l'église, il faut être vraiment vigilant à ça, que c'est pas que par affinité, c'est pas que par sensibilité. Et vraiment, si tu te sens seul dans notre église, je veux vraiment te demander pardon. Je veux vraiment te demander pardon, parce que de temps en temps, on a des retours comme ça, de gens qui se sentent vraiment seuls au milieu de nous, et c'est toujours très dur à entendre comme retour, mais c'est la réalité. Et c'est pareil, dans le monde dans lequel on vit, rapidement, des gens peuvent se sentir seuls. Vous savez, des gens se sentent seuls, et c'est peut-être votre expérience, même au sein de leur propre couple. Des gens, ce sentiment de solitude peut tellement venir briser les vies, et l'église n'est pas faite pour un lieu comme ça. Au contraire, c'est un lieu où on se sent accueilli, c'est un lieu où on se sent accepté, c'est un lieu où on peut retrouver des frères et sœurs qui vont réellement s'intéresser à ce que je vis, et pas, on porte pas de masque. Amen. Donc ça, et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'aspect communauté, c'est attention au progressisme. J'ai horreur de ce mot progressisme, ça ne veut pas dire pour qui je vote, etc. C'est un mot qu'on utilise beaucoup quand on parle de politique, mais j'ai horreur de ce mot-là parce que des fois c'est vrai que le progrès améliore les choses, des fois c'est vrai que ce qui est nouveau est meilleur, mais c'est pas toujours vrai, loin de là. Parfois ce qui est ancien, et il y a un Larsen dans le micro, je ne sais pas si c'est... micro de la batterie, si c'est possible de le baisser. Merci, David. Vous savez, on en rigolait à table au petit-déj ce matin avec Emmanuel. Jésus portait des sandales. Vous savez, nous, aujourd'hui, on a des super chaussures hyper molletonnées, des nouvelles mousses, moi qui fais pas mal de sport, des nouvelles mousses qui renvoient de l'énergie. Enfin, on a accès à un matériel juste incroyable. Beaucoup de marketing, surtout, on se fait tous avoir là-dedans. Mais Jésus portait des sandales. L'homme qui avait peut-être le plus grand ministère de l'histoire, Jean-Baptiste, mangeait des sauterelles, était en sandales. Et les Romains ont conquis le monde entier en sandales, quoi, les amis. Nous, on a des chaussures extraordinaires aux pieds, mais on n'a pas du tout les mêmes résultats qu'eux. Donc ce qui est ancien n'est pas toujours forcément moins bien. Et vous savez, on dit souvent, c'est un peu le rôle du méchant. Pareil, on rigolait avec Emmanuel et Simon. Dans le couple, souvent, il y a le good cop et le bad cop. Vous savez, le bon policier et le méchant policier. Et souvent, on se rendait compte que c'était les hommes. On était plutôt le good cop. Et c'était la maman qui devait jouer le rôle du bad cop, qui devait vraiment mettre les limites plus fermes aux enfants. Messieurs, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un petit temps de... Ah, Olivier, il y a un temps de repentance, là. Et tout ça pour dire que c'est un peu le rôle, parfois, que je joue dans l'église. Mais vraiment, les amis, je vous encourage, en fait, venir à l'église au moins une fois par semaine. Nous, quand on était enfant, il y a 20-30 ans, les gens ne se posaient jamais la question. En fait, je pense que les gens n'avaient pas assez d'argent pour partir en week-end, tous les week-ends ou machin. Et je pense qu'on aimait juste être ensemble et on allait à la plage le dimanche ensemble après l'église. En fait, c'est comme si on vivait ensemble tout le temps. On voyait tout le temps nos amis de l'église. Il y en a plusieurs devant là qui ont connu cette période. On était tous ensemble à Nîmes. Et vraiment, les amis, je vous encourage, quoi. Là, dans le passage qu'on vient de lire, c'est tous les jours qu'ils étaient au temple. Donc on ne vous demande pas tous les jours, mais un rendez-vous par semaine public et un rendez-vous par semaine en petit groupe, ce n'est pas la mer à boire. Je suis désolé, nos agendas, on le répète tout le temps, sont trop remplis. Et voyons, encore une fois, je me contredis moi-même, mais voyons l'ordre des priorités. Et l'épouse de Christ, je pense que parfois elle doit remonter un peu dans nos priorités. Et c'est génial de faire d'autres choses le week-end. Mais faisons attention à l'équilibre. Faisons attention à l'équilibre. Parce que c'est pareil, si on veut construire quelque chose ensemble, c'est génial, on est de plus en plus nombreux. C'est extraordinaire. Mais vous voyez qu'il y a des semaines quand même où les rangs sont clairsemés. Parce que on a plein d'autres choses à faire. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous le dis, je ne suis pas là le week-end prochain. Priscilla et Baptiste nous ont demandé de les marier. Et bon, il se trouve qu'ils se marient en Bourgogne. J'étais là le lendemain du mariage de Nathanaël et Charlotte. Enfin, pour moi, rater un culte, c'est juste pas possible, quoi. Moi, je suis un peu une exception. Parfois, j'aimerais dormir ici parce que j'aime tellement l'église de Dieu et j'aime tellement être dans ce lieu avec vous. J'y passerai mes semaines et mes journées. Bon, c'est un peu déjà le cas pour mes pensées, en tout cas. Mais voilà, je ne vous dis pas ça pour être pénible, je ne vous dis pas ça pour être légaliste, je ne vous dis pas ça pour vous embêter, pour vous reprocher des choses. J'essaie juste de vous donner une vision qu'il y a ce côté communautaire, il y a ce côté vie ensemble. Vous savez, nos amis, je prends 10 fois trop de temps sur ce point, mais ce n'est pas grave, j'accélérerai après. Nos enfants, il y a pas mal d'enfants qui sont à l'école chrétienne de Montboucher, donc ils se voient toute la semaine à l'école. Le dimanche, beaucoup d'entre eux se voient ici à l'église, mais vous savez quoi, le mercredi et le samedi, en fait, ils veulent inviter leurs amis de l'école et de l'église, ça ne leur suffit pas. Et dans cette image, il y a quelque chose de beau, je me dis, mais en fait, ces gamins, ils vivent ensemble, ils grandissent ensemble, et ils veulent toujours être ensemble, quoi. Et moi, je pense que là-dedans, il y a quelque chose de l'image de ce qu'est l'église. C'est une famille, qui aime tellement être ensemble que c'est vraiment une priorité. Amen. Et puis si on veut construire en plus, il faut bien qu'on soit ensemble, sinon les relations se distendent, etc. Et puis c'est plus dur de construire ensemble. Donc du leadership 1, juste vous rappeler que là, il y avait ces 12 apôtres, mais que ce n'est pas resté longtemps comme ça. Tout de suite, il y a eu des implantations d'églises, il y a eu des bases apostoliques, donc il y a eu d'autres apôtres. Et il y a eu plein d'autres leaders, il y a eu plein d'autres pasteurs, enseignants, aidez-moi, évangélistes, prophètes, voilà, je les ai tous dit. Donc en fait, le leadership oint, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est que Dieu veut te oindre dans ton leadership. En fait, on est tous appelés à être leader, mais dans des contextes et des formes différentes. Mais ça, c'est très important. Et j'étais très touché ce matin, j'avais les larmes quand on était dans ce petit bureau là-bas et qu'ils ont décidé de vouloir prier pour moi avant le culte, parce que oui, il y a des bergers plus globaux pour l'Église, et on a vraiment besoin de vos prières, je vous le dis les amis. Des fois on vit des choses de fou et tout, et j'ai des gens derrière qui me disent, mais tu sais, j'ai prié pour toi cette semaine et tout, et je me dis, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Donc s'il vous plaît, priez pour nous, pour la sagesse dans la conduite de cette Église qui grandit de plus en plus, et du coup la sagesse doit vraiment grandir avec, quoi. Donc voilà la déclaration de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, puis grec. Et ensuite, donc ça c'est dans Romains 1, verset 16. Donc vraiment les amis, osons. On parle souvent de ces 10 secondes de courage. Il y a cet autre verset qui dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Et vraiment les amis, je vous encourage encore à faire des pas de courage et vraiment d'oser sortir de votre zone de confort. Tous les jours, il y a des gens devant vous. Tous les jours, vous avez des opportunités. Alors, ce n'est pas de parler forcément de Jésus à tout le monde. Voilà, Simon nous a expliqué que des fois, on peut être un peu pénible et y aller un peu avec nos gros sabots. Ce n'est pas ça. Mais même si vous ne prêchez pas l'évangile, d'ailleurs, j'ai envie de dire, surtout, ne prêchez pas l'évangile d'abord en parlant, mais prêchez-le d'abord par votre attitude. Et ensuite, les paroles, il y a cette citation que je n'ai pas qui dit ça, en gros. D'abord par notre attitude, puis ensuite d'utiliser les mots si besoin est. Mais vraiment, prêchons l'évangile, déclarons-le. Il y a quelque chose de puissant à déclarer l'évangile partout où on va. Amen. Et le dernier point, parce qu'après, j'ai toute une autre partie qui va aussi être bien accélérée, mais c'est cette multiplication de disciples. Comme je vous ai dit, ça démarre par 3000, ça passe tout de suite à 5000, et ensuite, comme je vous ai dit, il y a plein d'églises qui sont implantées, l'évangile parcourt très vite grâce aussi aux voies romaines, l'Empire romain et au-delà. Et du coup, Simon nous a vraiment, s'il y a un truc que je retiens de sa visite parmi nous, c'est vraiment ça encore, qui nous a rappelé cette urgence de chercher à multiplier les disciples. Et c'est vrai que on vit de belles choses, encore une fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent, il y a des nouvelles personnes qui viennent à la fois, c'est chouette, mais comme on l'avait dit il y a un an, et en fait ça n'a pas vraiment, je pense que ça a peut-être un peu changé, mais on a vraiment encore de la marge de progrès, on est dans l'addition si on regarde les mathématiques, on est dans l'addition, il y a des personnes petit à petit qui s'ajoutent, mais vraiment il y a quelque chose, il y a un ADN là-dedans qui n'est pas l'ADN de l'addition, mais qui est l'ADN de la multiplication. Et la multiplication n'est possible que si chacun d'entre nous prend sa part. Et on en parlait encore hier soir à table avec des amis. Imaginez si chacun de nous ici dans cette pièce ramenait une personne à Jésus. Je n'ai pas dit ramener à l'église, ça bien sûr, ça vient aussi après. Mais déjà, si chacune de personnes dans cette pièce donnait accès à une personne, à l'évangile et à Jésus. Imaginez le réveil juste qui démarre tout de suite. Mais la tentation... Quand on parle de ça, c'est de chercher une méthode qui va bien marcher pour faire des disciples. Et c'est très important, les méthodes, on a besoin d'être guidé. Mais alors, on en parlait l'autre jour avec Olivier aussi, on se rend compte que ce n'est pas la méthode qui va fonctionner. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toutes ces choses-là et qui nous enflamme aussi, qui nous donne cette passion pour l'Évangile. Amen. Et du coup, une église de disciples, on peut passer la diapo d'après. Je suis tombé, comme par hasard, je priais, je réfléchissais à ce que j'allais vous partager aujourd'hui. Et comme par hasard, je suis tombé là-dessus, donc je rends à César ce qui est à César. Je ne sais pas si certains d'entre vous reçoivent la lettre quotidienne de Pascal Portoucalian, qui est vraiment un ami de l'Église, un gars extraordinaire qui est directeur de... C'est un entrepreneur chrétien, directeur notamment de Paul et Sephora, la maison de musique chrétienne. Et du coup, il a fait ce courrier, comme tous les jours, où il donnait sept caractéristiques du disciple qui se multiplie. Et je me suis dit, tiens, c'est un autre langage, ça ne vient pas de chez nous, mais c'est hyper intéressant. Donc, premièrement, le disciple, c'est qu'il a décidé d'être lié à Christ dans toute sa vie quotidienne. Et j'ai aimé ce qu'il disait, il ne choisit pas de laisser d'angles morts dans lesquels Jésus n'aurait pas son mot à dire. S'il identifie ces angles morts, il a le désir de leur redonner vie et en les confiant à Jésus. La croix est une dimension permanente et omniprésente dans sa vie. Et j'aime ça parce que oui, le disciple, donc dans disciple, il y a discipline, on le verra à la fin, mais c'est ce côté apprenti de Jésus. Eh bien, on est intraitable avec le péché qui reste en nous et avec les angles morts dans nos cœurs. On est intraitable avec eux et on les amène à Jésus. Amen. Allez, j'accélère un peu parce que je veux bien finir. Il aime, le disciple, s'instruire des choses de Dieu. Et il est conscient qu'il va être à contre-courant, en fait, du monde dans lequel il est. Quelle que soit son époque ou sa culture, le fait qu'un disciple décide d'observer et d'agir sur son environnement avec le regard de Jésus le place toujours en décalage. Nous sommes des saumons qui remontons le courant, les amis. C'est normal que nous soyons. Si nous ne sommes pas en décalage avec la société dans laquelle on vit, on a un gros souci. Ça veut dire qu'on est en décalage avec Jésus. Donc, il vaut mieux être en décalage dans l'autre sens. Amen. Suivez-moi et je vous ferai ferai pêcheur d'hommes. Jésus dit à Pierre et André, et aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est ça être disciple, c'est laisser. Tout le reste perd son importance dans ma vie pour suivre Jésus. Je ne dis pas que tout le reste, je ne le fais plus du tout, hein. Ils sont restés des pêcheurs, etc. Mais ils ont tout appris, tout est passé au second plan au profit du fait de suivre Jésus. La communion avec Dieu nous pousse à faire sa volonté. Mais ça, je vous l'ai déjà dit juste avant. La communion avec Dieu nous pousse à faire sa volonté. Troisièmement, ce qu'il sait, ce qu'il apprend, ce qu'il comprend, il le transmet. Mon ami, si tu t'es converti dans cette pièce ce matin depuis plus de 2 minutes, tu as quelque chose à donner à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Amen. Si tu te convertis depuis plus de 30 secondes, tu as quelque chose à apporter. Tu peux partager ton témoignage en 15 secondes. Amen. Donc vraiment, et demandons au Saint-Esprit de transformer notre intelligence, que nous soyons dans cette volonté de transmettre par tous les moyens possibles, mais de transmettre. Amen. On n'est pas des consommateurs, on est acteurs. Et sortons de cette culture de la chair. La chair, vous voyez, la chair est faible, hein, c'est ce qui est écrit dans la Bible, la chair est faible. Sortons de cette culture, voilà, vous êtes tous devant moi, tous assis sur. On a voulu des chaises hyper confortables pour la culture de l'honneur, mais que ce ne soient pas des chaises hyper confortables qui nous font rester dans une position de consommateur. Amen. Donc, le disciple, il est en action. Il n'est pas en position off, et s'il est en position off, en fait il cesse d'être disciple, même si des fois il faut savoir s'arrêter, hein, pour reprendre des forces, ça c'est très important. L'amour est sa valeur cardinale. Maître, quel est le plus grand commandement? Les Sadducéens demandent à Jésus. Jésus lui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est vraiment très, très important, et je vais finir avec ça après les deux derniers points. L'amour, toujours. La louange et la prière font partie de ce qu'il aime au quotidien, on l'a dit juste avant, et ce côté discipline. Le mot discipline vient de mot disciple. Donc il y a ce côté engagement avec Dieu. Et du coup, je priais, je disais, mais Seigneur, c'est super tout ça, mais ça fait très méthode, il y a beaucoup de choses, etc. Ça doit être beaucoup plus simple que ça, en fait. Et Dieu m'a donné ces trois mots que je vous partage. C'est la dernière diapositive, je crois. Suivez-moi. Donc, vous savez, si on reprend ce verset de Matthieu 4, suivez-moi et je vous ferai pécher en dehors. Donc, suivez-moi. Donc, ça, c'est vraiment prier. Les amis, il n'y a pas un réveil. On veut voir le réveil. Vous voulez voir le réveil? Amen. Vous voulez voir cette vie transformée, le Dauphiné transformé par le Seigneur. Amen. Il n'y a pas un mouvement. J'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui veulent voir le réveil dans cette pièce. Est-ce que vous voulez voir le réveil, les amis? Ouais. Wouh ! Mais c'est ma faute, je vous ai un peu endormi. Donc il n'y a pas un réveil qui n'a démarré sans la prière fervente de une ou plusieurs personnes. Donc suivez-moi, c'est vraiment prier, parce que quand tu pries, tu sais où Dieu va, tu sais où il est et où il va. Deuxièmement, je vous ferai, donc ça, le verbe aimer, on vient de le lire, le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu et ensuite nos prochains comme nous-mêmes. En fait, c'est poussé par l'amour. 1 Corinthiens 12, je vais vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence, si on veut faire des disciples, c'est pareil, c'est l'amour. On ne se force pas, on est poussé par l'amour. Il y a ce livre d'Heidi Baker qui s'appelle comme ça, poussé par l'amour. Et le troisième mot, pêcheur d'hommes. Il y a ce côté action, ce côté agir. Les amis, il faut qu'on se bouge le popotin. C'est important. On remet toujours à demain. On est toujours dans la procrastination. Je sais que là, vous entendez mon message et vous êtes convaincus avec moi. Et même moi, je prêche mon propre message et je suis convaincu avec moi-même. Mais je sais que demain, je vais retourner... c'est férié, mais on va faire autre chose. Et puis voilà, ça s'estompera. Et puis, c'était un bon message de Matthieu et tout. Bon, qu'est-ce qu'on mange à midi? Vous voyez, les amis, vraiment, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge pour prier, pour aimer et pour agir. Et c'est pareil, je disais, et on va finir par prier ensemble. Je disais, mais Seigneur, mais même 3 mots, c'est comme si c'était déjà, ça faisait déjà un peu trop méthode et ça faisait déjà un peu trop plan à appliquer. Et vraiment, Dieu m'a dit, mais non, mais en fait, il y a un seul mot réellement qui compte. Et le seul mot, ben, c'est ce mot qui est dans ce premier commandement. Ça se résume à aimer Dieu. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de liste vraiment de priorité. La seule priorité, c'est d'aimer Dieu. Tous les jours, à chaque instant, aime Dieu, aime le Seigneur, ton Sauveur, ton Seigneur, aime-le. Et tout son amour, l'amour que tu lui portes parce qu'il t'a aimé le premier, va se traduire dans toutes ces choses qu'on a évoquées. Faire des disciples, ça commence par une seule chose, aimer Dieu. Parce que si tu l'aimes, c'est que tu as été touché par son amour de Père. Et si tu as été touché par son amour de Père, tu vas ressentir son amour pour les perdus. Donc tu vas pouvoir aimer tu vas pouvoir t'aimer toi-même déjà, tu auras reçu son amour, et parce que tu as reçu son amour, ensuite tu peux aimer les autres. Amen. Alors si tu te détestes toi, tu vas faire beaucoup de mal aux autres. C'est pour ça qu'il faut guérir, c'est pas pour être centré sur nous, c'est parce que ce qui découle de ça, c'est qu'on va pouvoir aimer les autres comme il faut. Amen. Donc les amis, je finis sur cette phrase. Il y a un coût pour être disciple. Il y a un coût. Oui, c'est Jésus qui a payé le plus grand des prix. Mais il y a un coût. Ça nous coûte d'appliquer toutes ces choses-là. Ça nous coûte d'aimer Dieu. Parce que notre tendance va être de nous aimer nous d'abord. Mais c'est d'abord Dieu. Ça nous coûte et il y a un prix, les amis. Pourtant, ça m'énerve, je vous promets, quand j'entends des pasteurs dire ça, ça m'énerve. Je dis, mais non, arrête, il n'y a que Dieu qui a payé le prix. Oui, c'est vrai, il n'y a que Jésus qui a payé le prix. Mais nous, il y a un petit prix inférieur à celui-là qu'il nous faut payer au quotidien si on veut voir le réveil. Un prix qui se paye dans la prière. Il y a des rencontres de prière qui se sont faites ces derniers temps très tôt le matin à 6h30. Oui, quand on se réveille, quand on se lève et qu'on s'assemble avec d'autres pour prier à 6h30, ben là, on est en train de payer le prix. Je ne veux pas glorifier l'effort, les œuvres, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est que quand on est vraiment, si on prend ces choses-là au sérieux, ça nous conduit à payer un prix. Et moi, je vous invite les gens à vraiment à prier. On va multiplier les rendez-vous de prière avant les cultes. Ça ne vous rajoute rien dans votre agenda. Vous venez juste une demi-heure, trois quarts d'heure avant. On prie ensemble. Si vous avez particulièrement à cœur l'intercession, allez voir Olivier. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là aussi. Mais il y a un coût pour être disciple. Et il y a un prix à payer pour vivre le réveil. Est-ce que ce matin, tu as envie de payer ce prix et d'accepter ce coût ? Eh bien, je vous invite, les amis, juste avant qu'on finisse par un chant, de vous tourner, de vous mettre par trois personnes. Là, s'il vous plaît, soyons réactifs et qu'on se dise, ben voilà, et qu'on puisse prier pour s'encourager les uns les autres dans ce prix à payer et dans ce coût. Et comme ça, on est redevables les uns des autres. Et on dit, ben oui, je te le dis, moi, j'ai envie de payer ce prix. J'ai envie d'accepter ce coût, de suivre Jésus, d'être son disciple et de faire des disciples.